Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui êtes venus assister nombreux à cette soirée débat « Les femmes, avenir de l'Église ?» organisée au Centre Sèvres à l'occasion de la publication de deux numéros particuliers des revues jésuites « Christus, une spiritualité au féminin » et « Études, le hors-série, quelle place pour les femmes ?» sous-entendu dans la société et dans l'Église. La question de la place des femmes dans la société est une question relativement neuve. L'évolution de la condition féminine est spectaculaire, en particulier depuis les années d'après-guerre. Le féminisme a engendré de nombreux débats qui ne furent sans doute pas sans excès, ce qui est pour une part inévitable s'il s'agit de déplacer, voire de bousculer une situation établie depuis de nombreux siècles. Dans l'Église aussi, les choses ont bougé, à un rythme sans doute plus lent. L'Église n'est pas en dehors de la société. Son anthropologie, sa vision de l'humain, dépend de facteurs culturels qui la précèdent, mais qu'elle a aussi, à différents moments, contribué à déplacer. Dans l'anthropologie chrétienne, l'insistance est mise volontiers sur la différence. Et dans un contexte culturel qui tend parfois à l'indifférenciation, la question est en effet d'importance. Mais reconnaissons qu'il est difficile de penser la différence autrement qu'en termes hiérarchiques. Le féminin a longtemps été pensé comme du masculin déficient. Ce dernier serait par nature voué à l'activité, à l'initiative, sinon à la domination. On peut ensuite faire l'apologie de la passivité ou de l'obéissance, cela ne rééquilibre en rien une relation désormais bancale. Les textes bibliques disent autre chose. Nous l'entendrons tout à l'heure en particulier dans la bouche d'Anne-Marie Pelletier. Mais ils ont longtemps été lus de manière biaisée, unilatérale. Que n'a-t-on pas fait dire au récit dit du péché originel? Philon d'Alexandrie, un commentateur biblique du 1er siècle de l'ère chrétienne, n'hésitait pas à écrire que la faute d'Adam avait consisté à trop prêter l'oreille à la parole de sa femme, autrement dit à lui obéir, alors que cela aurait dû être l'inverse. Il faudra une lecture plus rigoureuse des textes pour déconstruire tous ces fantasmes. La relecture historique nous amène à mettre l'accent non tant sur le féminin ou sur le masculin comme tel, que sur la relation ou les relations entre hommes et femmes. Il est toujours dangereux d'essentialiser ce qui relève des personnes dans la singularité de leur être unique. Les interprétations qui tendent à l'indifférenciation et celles qui hiérarchisent et opposent se répondent en miroir. Pour reprendre une expression de la philosophe France Farago, il s'agit de promouvoir une anthropologie relationnelle dont l'enjeu est l'instauration d'un véritable dialogue sur des bases d'égale dignité et d'estime réciproque venant supplanter le soliloque dominateur et spoliateur des hommes. La tradition chrétienne est porteuse de grandes ressources. La Bible dénonce le fantasme d'autosuffisance. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Jésus de Nazareth et certains hommes et ses rencontres avec des femmes sont non seulement nombreuses, mais aussi très significatives dans son parcours. Sa rencontre avec la Samaritaine, celle avec la Cananéenne, qui sont en outre des femmes étrangères à la communauté juive, marquent des étapes importantes de son itinéraire. Et après sa résurrection, c'est une femme, Marie-Madeleine, qui sera la première à le rencontrer, la première à entendre cette annonce de la résurrection et qui recevra mission de l'annoncer aux apôtres. Et elle est à bon droit qualifiée d'apôtre des apôtres. Je crains que nous n'ayons pas encore vraiment complètement tiré profit de ces données évangéliques. Mais je laisserai le soin à nos intervenantes de le préciser. Je laisse maintenant la parole au père Rémy de Madreville, rédacteur en chef de Christus.
Bonsoir. Alors effectivement, je trouve que c'est vraiment très bienvenu de se joindre études et Christus autour d'une même question qui sera évidemment abordée de manière différente parce que nous n'écrivons pas exactement les mêmes revues et les mêmes choses dans nos revues. Et je voudrais dire un peu un mot là sur pourquoi est-ce que nous avons fait ce numéro sur la spiritualité au féminin et qu'est-ce qui a guidé un peu le comité de rédaction dans ces échanges. Parce que ça permet aussi de lire un peu autrement peut-être le numéro. Eh bien, moi je dirais tout simplement à cause de la réalité la plus factuelle en France et en Europe particulièrement. Les figures, ou plutôt les voix, comme dit avec beaucoup de justesse Anne-Marie Pelletier, les voix, V-O-I-X, qui depuis des décennies inspirent, nourrissent, accompagnent la vie spirituelle de femmes et d'hommes en grand nombre, sont pour une très grande part des voix féminines. Loin de moi de vouloir éliminer des taillards ou des indèles, qui d'ailleurs, chacun dans son genre, désignent dans la féminité une source essentielle et constante de leur spiritualité. Mais de Thérèse de l'Enfant Jésus à Mother Teresa, en passant par Élisabeth de la Trinité, Simone Veil, Ethyl Soum, Madeleine Delbrel, Marie Noël et encore bien d'autres, c'est une réalité dont les éditeurs et les libraires pourraient très aisément témoigner. Et de ce point de vue, ce soir, je ne voudrais pas manquer de saluer et de recommander ici le très beau livre tout récent de François Marxer, Au péril de la nuit, femme mystique du XXe siècle, auquel Christus, dans son prochain numéro, fera honneur par la plume de Dominique Salin. L'influence de ces femmes, les unes très engagées dans le monde ou très ouvertes sur lui, dans la contemplation ou dans des services et des situations parfois très exposées, dépasse de très loin les frontières civiles, les frontières culturelles et même les oppositions hommes-femmes. Mais la réalité est encore plus vaste, me semble-t-il. Elle est celle de... Il se trouve que j'ai eu à accompagner la communauté vie chrétienne en France pendant quelques années, et je peux vraiment témoigner de ce que je vais dire là, celle de très nombreuses femmes laïques, mères de famille, célibataires, religieuses de congrégations plus anciennes ou de communautés nouvelles, qui aujourd'hui inventent et mènent une vie spirituelle exigeante dans des conditions de vie souvent trépidantes. Elles accompagnent et elles accompagnent des personnes et des groupes dans des retraites spirituelles ou dans la vie, ou encore elles en forment d'autres à un accompagnement spirituel de plus en plus demandé. C'est aussi une réalité du temps, peut-être trop rarement évoquée, trop peu visible dans une église qui est souvent un peu trop institutionnelle et oublieuse dans la perception qu'elle donne d'elle-même. Comme le dit Véronique Margron dans l'entretien qui ouvre le numéro de Christus, elle dit finalement la différence homme-femme, elle se redouble la plupart du temps de la différence clair-laïque. Et ça ne simplifie pas toujours les choses. Alors cette spiritualité au féminin, comment est-elle vécue? Quelle est sa fécondité en Église et dans la société? Qu'est-ce qu'elle apporte à ceux et celles qui prennent la suite du Christ ou qui cherchent tout simplement à éclairer leur vie par l'Évangile? Il y a eu 3 points dans nos échanges que je voudrais simplement redire brièvement pour laisser la parole aux vrais intervenants de ce soir. Mais voilà, trois petits points. Le premier portait sur l'anthropologie moderne. Et j'imagine peut-être que Agatha y reviendra dans son intervention. L'émergence d'une autonomie du féminin, l'analyse culturelle des genres, un partage plus égalitaire des tâches et des responsabilités, eh bien tout cela fait éclater, qu'on le veuille ou non, tout cela fait éclater des images traditionnelles, des métaphores bien assises et bien calibrées pour des siècles, des rôles trop assignés, Et donc, ça pose à nouveau frais la relation homme-femme. Qu'est-ce qui les spécifie l'un et l'autre dans la vie spirituelle comme dans l'ordinaire de la vie? Parce que la vie spirituelle, ça n'est rien d'autre que la vie ordinaire vécue au souffle de l'Esprit-Saint. Sans chosifier, sans essentialiser, comme disait François tout à l'heure, les différences, qu'est-ce qui, de l'homme et de la femme, éclaire et nourrit la foi et la liberté de tout un chacun dont tout le monde profite, homme ou femme? Voilà, c'était un premier point qu'on voulait éclaircir dans ce numéro. Le deuxième point qu'on a voulu honorer, c'est la question du corps. Le corps biologique, le corps charnel de chacun, dont Thérèse d'Avila disait à ses sœurs, avec son humour habituel, « Fais du bien à ton corps pour que ton âme aime y demeurer. » C'est une belle formule, hein? Les manières de vivre et d'habiter son corps sont différentes, on le sait bien, entre les hommes et les femmes, mais ça n'est pas sans conséquence pour le corps social. Parce que qu'en est-il alors des notions et des pratiques d'obéissance, de chasteté, de pauvreté? Et on trouverait, ou vous trouveriez, dans les articles d'Anne Lécu, de Dolores Alexandré, d'Anne-Marie aussi, et dans le petit passage d'Edwige d'Anvers, des choses aussi intéressantes que stimulantes de ce point de vue. Et puis enfin, troisième point de nos échanges en comité de rédaction, portait sur le langage, sur le message et l'expression de la spiritualité au féminin. Comment se raconte cette spiritualité? Quel langage l'exprime dans la littérature, dans l'art? Comment cette voix autre est-elle écoutée, consultée, mise en œuvre? Patrick Goujon, qui malheureusement n'est pas là ce soir, à propos du XVIIe siècle, c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu sur lui, à propos du XVIIe siècle, souligne à quel point, malgré la rigidité des rôles et des relations marquées par l'opposition des sexes, il souligne à quel point des amitiés très fécondes en mission, en œuvre, ont pu naître de la reconnaissance en l'autre d'un même désir de chercher et trouver Dieu. C'est ce qui lie François de Sales et Jeanne de Chantal. C'est ce qui lie Marie de l'Incarnation avec un certain nombre de jésuites. C'est ce qui lie Madame Guyon et Fénelon. Voilà. Et d'autres encore, hein, bien sûr. Et ceci, malgré parfois les reproches de l'environnement le plus immédiat, les familles, les règles de la bienséance, un certain nombre de choses comme ça. Et puis enfin, Nathalie Sartoulajus nous fait entrer dans le regard et le cœur de ces femmes qu'elle appelle, avec bonheur, je trouve, des mères veilleuses. On peut le dire plus rapidement aussi. Voilà, très différentes l'une de l'autre, Camille Claudel et Louise Bourgeois, rassemblées sous une même plume, mais l'une et l'autre finalement implorant, l'une et l'autre tout entière en désir d'un aimé insaisissable, déterminé par lui et signifié pourtant dans des formes artistiques vraiment très étrangères, je dirais, l'une à l'autre, hein, entre Camille à genoux derrière Rodin et puis l'araignée de Louise Bourgeois, quoi de commun? Eh bien, peut-être ce que je viens d'exprimer ou ce que vous lirez avec bonheur et dans le détail en lisant l'article de Nathalie. Voilà. Alors, ce soir, eh bien, je crois que si la spiritualité au féminin nous conduisait les uns et les autres à laisser vivre en nous, à retrouver peut-être ce fond désirant de nous-mêmes, ce fond de nous-mêmes qui implore un amour qui nous sauve, et qui nous sauve en nous unissant à des frères et des sœurs pour tisser ensemble la chair du ressuscité, cette chair qui renaît sans cesse de notre foi, eh bien je crois qu'on ne perdrait pas complètement notre soirée. je vous laisse à l'écoute de nos intervenants.
Merci Rémi pour cette mise en bouche. J'ajoute simplement que le hors-série de la revue Études rassemble une vingtaine d'articles parus sur plusieurs décennies, à partir des années 70, et est un bon complément, si on veut, de la revue Christus, qui les articles en question permettant de réfléchir sur justement la place des femmes dans la société et dans l'Église. Et nous partageons, vous avez compris, des mêmes auteurs, et pas autrices, même en l'occurrence, auteurs, dans les deux contributions. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Lucietta Scalafia, que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce soir à Paris, qui nous vient de Rome, qui est en France depuis quelques jours, mais qui est donc professeur, qui est historienne, professeur associé à l'Université de Rome, et qui est en particulier éditorialiste au journal officiel du Vatican, l'Osservatore Romano, et qui a fondé le supplément féminin Donne, Chiesa, Mondo, Femme, Église, Monde, qui va bientôt connaître, si j'ai bien compris, une version française, d'ici quelques mois. Elle est l'auteur de très nombreux ouvrages. Son dernier est traduit en français sous le titre « Du dernier rang, les femmes et l'Église », publié il y a quelques mois chez Salvator. Lucietta, je vous laisse volontiers la parole.
Alors, je vous remercie beaucoup pour cette invitation et je vous remercie beaucoup de m'avoir demandé de participer à la revue Études et de participer à ce dialogue entre les jésuites et les femmes qui a une si grande tradition historique. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Et je voulais ajouter que le mensuel Femme, Église, Monde sera diffusé, j'espère que tout se passe bien, à partir du mois de janvier par la revue La Vie, tous les mois. Et ce serait une belle chose. J'espère qu'en France il y aura une réponse. Il y a beaucoup de Françaises qui ont contribué. Nathalie Sartoulajous a contribué avec nous. Anne-Marie Pelletier. Il y a eu beaucoup de contributions et j'espère que continueront et se vont élargir dans le prochain futur. Je parlerai un peu d'historien sur qu'est-ce signifie dans ce moment historique le rôle des femmes dans l'Église, le rôle des femmes qui ne sont pas dans l'Église, l'absence d'un rôle de femmes dans l'Église. Le vif intérêt qui est en train de se réveiller aujourd'hui autour du thème de rapport entre les femmes et l'Église naît sans doute, sans aucun doute, aucun doute, de la pression que les sociétés des pays avancés, où l'égalité des femmes est désormais un fait acquis, exercent à l'égal d'une structure, la structure ecclésiastique, où les femmes n'existent pas, ne sont pas écoutées, sont de fait invisibles, mais d'indispensables servantes. Cette situation n'est plus acceptée pour les jeunes femmes, qui principalement pour cette raison s'éloignent toujours davantage de l'Église et manifestent un désintérêt croissant à l'égard de la vie religieuse, comme le démontre la forte baisse de vocation féminine. Dans le même temps, dans les vocations sacerdotales, augmente le nombre d'hommes jeunes qui choisissent en voyant dans l'Église le dernier espace de pouvoir masculin disponible. Tout cela, oui, c'est vrai. J'ai présenté mon livre dans des séminaires en Italie et j'ai vu ça et on m'a dit que même en France, il y a ce problème. Pas dans tous les séminaristes, sans doute, mais il y a. Tout cela engendre évidemment une accentuation du problème, une contradiction ouverte dont peu de personnes semblent être conscientes. En outre, l'absence de la présence féminine dans la vie de l'Église provoque de graves malaises, non seulement du point de vue extérieur, c'est-à-dire de celui qui est éloigné, mais également de celui qui vit dans l'Église et qui espère dans l'Église. En effet, comment la culture catholique peut-elle répondre aux grands défis du présent, aux questions ouvertes par la modernisation, qui sont à la racine de processus de sécularisation, comme la révolution sexuelle et la crise de la famille, sans entendre les femmes? Les femmes protagonistes et témoins, les femmes qui réfléchissent sur ces thèmes et qui répondent aux normes promulguées par l'institution. Au cours de 100 dernières années, l'Église a en effet répondu à cette crise en renforçant les normes, en réaffirmant des condamnations sur le comportement sexuel, la famille, les rôles sexuels. Même si la plupart des fois l'Église avait au fond raison, elle n'a pas trouvé les mots justes pour s'expliquer, pour créer un point de vue alternatif et crédible à l'utopie qui se diffuse. Et la crise de la famille et l'anarchie sexuelle sont devenues les champs de bataille sur lesquels la sécularisation a gagné. Mais ce n'est pas seulement l'Église qui a perdu. Les femmes ont également perdu sur de nombreux aspects dans cette révolution de la modernité. Car la maternité a en particulier perdu de sa valeur. Il est fondamental d'en parler ensemble. Parce que l'expérience chrétienne est inscrite entre deux images maternelles. Une mère avec un nouveau-né, qui c'est la Noël, et une mère avec son fils mort entre les bras, qui c'est la déposition de Jésus après sa mort. Vous savez que l'art chrétien a répandu ces images partout, et sont des images de femmes, et sont des images de l'amour maternel. Et sont des formes qui ont vraiment bâti notre culture et notre société. En effet, l'amour maternel gratuit et désintéressé constitue pour les êtres humains l'unique expérience humaine possible de ce que peut être l'amour de Dieu. Mais si la maternité est pénalisée et vidée de signification, je pense par exemple à la GPA, non, à la vente de la maternité. Que reste-t-il pour comprendre, même de façon symbolique, l'amour chrétien pour le vivre comme expérience de Dieu? Nous pouvons comprendre Dieu seulement, l'amour de Dieu seulement dans l'expérience de l'amour entre les êtres humains et sûrement l'amour de la mère, c'est l'expérience plus voisine à l'amour de Dieu que nous pouvons vivre dans notre vie. Avec le génie féminin, Jean-Paul II a eu une intuition à propos de tout cela et il a finalement donné de la valeur à une expérience qui jusqu'alors avait semblé seulement naturelle, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas réalisé les conséquences de sa découverte, c'est-à-dire la nécessité de faire entrer cette expérience comme force vitale dans la vie de l'Église. Il a accompli un acte d'hommage aux femmes, aux maternelles, qui est resté sans suite et même utilisable pour laisser les femmes de côté. Et son évocation de la valeur de la mère a donc semblé une énième excuse pour emprisonner les femmes dans leur rôle biologique, pour les y enfermer. Dans mon expérience de rapport avec le clergé, j'ai beaucoup d'expérience de rapport avec mon mensuel, toutes les fois qu'il y a un évêque ou un cardinal ou même un prêtre qui parle de génie féminin, c'est pour dire que les femmes doivent être éloignées de quelque place. Et oui, c'est toujours comme ça. Et alors, et j'ai vu même des moines, des sœurs très anciennes, que lorsqu'on parle de génie féminin, ils se vient des furieux, comment on dit, des gens qui...
Furieux.
Elles disent, non, je ne veux entendre jamais le génie féminin, car elles disent, c'est fait pour nous éloigner de la vie de l'Église. Et oui, si l'Église ouvrait ses portes aux femmes pour les écouter au moment du choix, au moment où elles affrontent les problèmes quotidiens et les projets pour l'avenir, en leur donnant la parole et la dignité, les normes pourraient être remplacées par des discours vivants, des discours avec une âme. La question sexuelle deviendrait une réalité sur laquelle réfléchir et non un danger à réglementer ou à idéaliser. Mais surtout, les discours publics catholiques accueilleraient à nouveau la réalité chaleureuse de celui qui vit la réalité de l'amour de Dieu et peut le faire rayonner autour de lui. Ce n'est que si les femmes et les hommes recommencent à se parler, à se connaître et à s'aimer au-delà et en plus du lien sexuel et familial, ce n'est qu'ainsi que l'Église peut redevenir vivante et vivace, attrayante. En revanche, nous sommes aujourd'hui face à une séparation paralysante. Et ainsi, je veux dire quelque chose sur la spiritualité féminine, dont j'ai parlé avant, que je pense que la spiritualité féminine a la spécialité d'être vécue, de devenir une expérience vécue et compréhensible, pas seulement dans les mots, pas seulement dans une théorisation même très haute, mais dans le rapport humain, qui rend l'Église... L'absence des femmes rend l'Église une institution normative, au maximum pour une institution ouverte aux bénévoles. Mais c'est une institution qui ne transmette plus un parcours spirituel, une expérience de ce que signifie être chrétienne. Ce sont des femmes que, en le vivant dans son expérience, ont fait de l'œcuménisme une réalité vécue. Je voulais faire des exemples de réalités, abstraites, idéologiques, non idéologiques, plus intellectuelles, qui sont vécues par les femmes dans leur vie et qui deviennent une réalité sur laquelle on peut réfléchir de notre façon. Je pense à Elisabeth Bersigel, que vous savez du protestantisme, s'est passé à l'orthodoxie, et d'Adrienne von Speyer. Je pense qu'on pourrait penser pas seulement à l'expérience à eux comme une conversion, mais plutôt à une expérience d'écuménisme. Car dans leur vie, je les connais, c'est une vie qui n'a pas de toute façon nié l'expérience avant, mais elle est liée dans la nouvelle expérience. Et c'est une vie, ce sont des vies où l'écuménisme est devenu une réalité, une expérience vitale. Et la même chose on peut dire pour les rapports entre les religions, pensant à la tradition juive qui a été vécue par Edith Stein, par Simone Weil et Etty Hillesum. Vous savez, Edith Stein a eu une conversion, les autres non, mais se sont convertis de toute façon au christianisme et l'ont vécu dans leur vie une expérience interreligieuse. Et c'est une expérience vraie sur laquelle on doit réfléchir pour penser les rapports entre les religions. Ce sont des femmes mystiques qui ont... Et puis, il y a des autres exemples que je voulais faire. Ce sont des femmes mystiques qui ont fait face à la sécularisation en acceptant de vivre la nuit de l'athéisme. Et je voulais parler moi aussi du livre que vous avez cité, qui a parlé de femmes qui ont vécu la nuit de l'athéisme, en acceptant de vivre la nuit de l'athéisme avec beaucoup de courage. sont 8 femmes d'une façon très différente, mais toutes les 8 femmes ont eu le courage d'entrer dans la nuit de l'athéisme. Et je pense que ça a eu pour l'Église, pour le rapport entre l'Église contemporaine et le grand problème de la sécularisation, une place très très importante qui n'a jamais été acceptée dans l'institution comme une expérience vitale. Et je dois terminer. La récupération de manière générale de la part d'intellectuelles femmes du rôle central exercé par les femmes dans le récit évangélique, et nous avons Anne-Marie Pelletier ici, de la contribution des saintes dans la vie de l'Église, en particulier des mystiques, à l'histoire de l'Église, des réalités qui font du christianisme la religion la plus ouverte à la reconnaissance de la valeur féminine, a également poussé un changement substantielle, mais qui n'a pas été tout à fait reçue. Non, elle était reçue sur un plan très important par Paul VI, qui a établi qu'il y a des femmes qui sont, docteurs de l'Église. Ça a été une reconnaissance très très importante. Les femmes avec leur liberté qui naît de l'impossibilité de faire carrière, c'est pourquoi je suis contraire au sacerdoce féminin, avec la capacité de transformer chaque hypothèse théorique en expérience concrète, avec leur talent pour le service gratuit et souvent non reconnu, constitue une composante fondamentale du peuple de Dieu. Une composante révolutionnaire pour la vie de l'Église qui peut la secouer de l'autoréférentialité et de l'abstraction dans laquelle elle s'enferme souvent, une contradiction fertile de nouveau déplorée. Merci.
Grand merci Lucetta de cette introduction vigoureuse. Je laisse la parole maintenant à Rémi qui va introduire l'intervention suivante.
Alors l'intervention suivante, c'est Agatha Zilinski, qui est Xavière et qui est aussi philosophe. Elle est maître de conférences en philosophie à la faculté de médecine de Rennes et bénévole en soins palliatifs. Elle a publié déjà chez Lévinas, La responsabilité est sans pourquoi aux Presses universitaires de France en 2003. Et elle a déjà écrit d'autres articles dans Christus, mais vous les rechercherez et vous les trouverez. Et je te laisse la parole, Agatha.
Oui, merci de m'avoir présenté comme ça. Je crois que je vais parler un petit peu à partir de ces différentes facettes de mon identité de femme. François me pressait hier par SMS de donner un titre. Une liberté au féminin, avec un point d'interrogation, puisque c'est une constante peut-être de la soirée. Voilà comment j'ai procédé. J'ai relu les articles de la revue Christus, du numéro sur la spiritualité au féminin, et j'ai été frappée, même à première lecture, de quelques grands traits communs aux différents articles. J'en ai repris quelques-uns que je vais vous dire dans un instant. Et en les relisant, je me disais, mais je crois que ça dit quelque chose, ça esquisse quelque chose, peut-être d'une liberté au féminin. Alors qu'est-ce que c'est ces quelques grands traits communs des différents auteurs ? Bon, d'une part, c'est une remarque qui a été redite tout à l'heure, c'est que il n'est pas question d'une essence du féminin. Il n'est pas question de définir des caractéristiques qui seraient réservées aux femmes. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Et plusieurs auteurs précisent régulièrement que, au fond, tout ce qui est dit dans ces textes autour d'une spiritualité au féminin, tout ce qui est dit peut être aussi ou est aussi vécu par des hommes. Donc il ne s'agit pas de définir une essence, mais une couleur, une tonalité ou un style au féminin. Ça, c'est le premier point. Ensuite, trois points de fond qui reviennent. Il y a quelque chose autour de croire en la vie malgré tout. un des traits de cette quelque chose comme une spiritualité au féminin, ce serait de croire en la vie malgré tout. Et je vous donne juste quelques petites phrases récoltées dans les différents articles. La vie qui persévère jusque dans le désastre. Traverser malgré tout. Tenir debout devant la mort. Pour les femmes, dans l'Évangile, au contact de Jésus, la mort perd son caractère définitif. L'enracinement de la parole dans la vie. Soutenir l'épreuve de l'obscur. Une manière de se tenir dans l'épreuve de la vie. Une présence à l'inconsolable. Ce sont des touches qu'on trouve dans les différents articles. Un deuxième trait commun, il me semble que c'est autour de la valorisation du lien, de la relation. Les femmes seraient de celles qui tiennent le lien, j'allais dire peut-être aussi malgré tout, j'y reviendrai. Beaucoup de choses autour de la parole et de l'écoute. L'écoute et le recueil de la parole de l'autre. Anne-Marie nous redira peut-être tout à l'heure quelque chose du pouvoir créateur d'une écoute féminine, essentiellement hospitalière, je la cite. Beaucoup de choses autour de donner la place à l'autre, avec ce mouvement que vient de redire Lucetta en conclusion, déjouer les pièges de l'autoréférentialité. Je cite encore, voilà. Le lien, la relation. Et puis, une troisième constante, c'est quelque chose autour d'un savoir du corps. Avec la mise en évidence à la fois du fait que c'est par notre corps que notre vie, que notre existence est toujours enracinée dans une culture, dans une histoire, dans la complexité du monde et des relations. Notre corps n'est jamais totalement naturel, mais il est pris dans cette ambivalence des choses humaines. Et puis, il y a aussi dans les constantes quelques figures de femmes de l'Évangile qui reviennent plusieurs fois. Les femmes au pied de la croix, je pense que vous l'avez deviné dans cette capacité à tenir jusque dans le désastre, tenir debout dans le désastre. Et puis, la femme au parfum, qui peut-être inspire aussi à Jésus le geste du lavement des pieds. Il me semble qu'à partir de ces quelques traits communs, qui ne sont pas les seuls, mais c'est ceux que j'ai choisi de retenir, il me semble que de là se dégage un certain rapport au réel, qui serait fait d'attention, d'une certaine qualité d'attention, et aussi de quelque chose que j'appellerais, moi, quelque chose comme un pari, une confiance dans les commencements. Et je fais un peu l'hypothèse qu'une liberté au féminin serait une certaine forme d'attention au réel, et puis la grâce ou la capacité des commencements. Je vais développer un petit peu ces deux points. L'attention, une certaine forme d'attention au réel. Je me disais peut-être qu'on pourrait appeler cette attention une attention au nu de la vie. Je reprends le titre d'un livre de Jean Hatzfeld, le journaliste qui a publié 3 ouvrages sur le Rwanda, donc sur les massacres du Rwanda. L'un de ses ouvrages s'intitule « Dans le nu de la vie ». Peut-être qu'un aspect d'une liberté au féminin serait la capacité d'attention au nu de la vie, c'est-à-dire l'audace de ne pas fuir l'inconsolable. L'audace de ne pas fuir la douleur et y offrir quelque chose comme une présence nue, une présence désarmée, une présence qui accepte de se savoir parfois impuissante. Alors ça, je le dis aussi peut-être à partir de mon expérience de bénévole en soins palliatifs, auprès des personnes en fin de vie, comme bénévole. Alors c'est un médecin qui m'a renvoyé ça une fois, il me dit « Mais comment vous faites, vous, les bénévoles? Vous entrez dans la chambre les mains nues ?» On n'a pas de stéthoscope, on n'a rien à faire dans la chambre, on n'a pas de pansement à changer, on est juste là. Et j'insiste, ce que je veux dire aussi par cette affaire d'offrir une présence nue, ne pas fuir l'inconsolable, offrir une présence nue, ce n'est pas chercher à consoler. Chercher à consoler, ça peut être un piège de revenir à quelque chose d'une tentative de maîtriser ce qui échappe. Voilà, les femmes au pied de la croix nous disent quelque chose de ça, ne pas fuir l'inconsolable, offrir une présence nue. Cette femme qui verse le parfum sur les pieds de Jésus sans une parole. Sans une parole. Elle ose une présence, elle ose un geste. Tout se dit dans un geste sans une parole. Et puis, toujours dans cette attention au nu de la vie, je me dis que il y a peut-être là une folle capacité de croire que quelque chose de la vie ou de la relation est encore possible dans les lieux du désastre ou de la mort. Et c'est peut-être ça la folie des femmes. Alors bien sûr, je joue sur le cliché, hein, n'est-ce pas ? C'est peut-être ça la folie des femmes, mais une folie au sens que saint Paul accorde à ce terme, une folie plus sage que la sagesse du monde, c'est-à-dire la folie de la croix. Peut-être qu'il y a quelque chose là à creuser. Et puis cette liberté dans l'attention nue de la vie, c'est un pari sur la vie, une liberté qui est un pari sur la vie. Qu'est-ce que c'est que cette liberté qui est un pari sur la vie ? Au fond, il y a une forme de résistance à se laisser entraver par le malheur du monde, ou une résistance à se croire fatalement déterminé par le malheur. Si je le dis en termes positifs, le pari sur la vie, ce serait quelque chose comme choisir d'espérer. C'est une formule que nous avons reprise, méditée en communauté il y a quelque temps suite aux attentats du Bataclan. On se sentait en communauté, je crois comme beaucoup de personnes, hein, dans beaucoup de groupes, dans la société, très marqués, non seulement désarmés, mais affectés, c'est-à-dire avec la crainte de sortir, avec cette idée que peut-être on ne rentrera pas le soir, avec la tentation de regarder l'autre avec suspicion, comme une menace. Et on se redit que face à ces tentations-là, on avait comme un devoir, une responsabilité de continuer à choisir d'espérer. Ce qui relève de la liberté parce que c'est un acte de volonté. Et c'est un acte de volonté parce que justement ça n'a rien d'évident, parce que ça ne va pas de soi, de choisir d'espérer. Choisir d'espérer, c'est choisir que le mal n'est pas le dernier mot. Choisir de croire que le mal n'a pas le dernier mot. Et puis l'attention au nu de la vie, c'est aussi une liberté qui est vécue dans la chair, c'est-à-dire avec une conscience de notre fragilité. Mais dire que c'est une liberté vécue dans la chair, c'est dire aussi que c'est une liberté qui n'est pas abstraite ou théorique, mais qui est justement une liberté enracinée dans l'histoire, dans la complexité et dans les ambivalences de l'humain. Voilà, c'était un peu le premier point que je voulais retenir, c'est l'attention, une forme d'attention. Et puis le deuxième point que je vais un peu développer, c'est ce que j'appelle la liberté des commencements. Cette liberté que je voudrais mettre en valeur, c'est tout autre chose que la liberté comme autodétermination qui est un fétiche de nos sociétés de consommation. Nous vivons beaucoup de choses sur le modèle, sur le mode de la consommation. Vous savez, vous entrez dans un magasin, vous allez acheter des yaourts. Hein. Ça ne vous saisit pas des fois le vertige devant un rayon de yaourts ? Ah, donc moi, je veux des chèvres bio au citron allégé. Ben, c'est possible, ça existe. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que nos manières d'être, nos manières de faire sont très façonnées par cette possibilité de choisir et de tout choisir. Ah, c'est ce que j'appelle l'autodétermination. On est dans des sociétés, je dirais, où l'idole, c'est la formule « c'est mon choix ». C'est mon choix. L'autodétermination, c'est choisir par soi-même et pour soi-même, et en étant la seule règle de ses choix. C'est une liberté individuelle au sens de centrer sur chaque individu. Et là, l'adjectif autoréférentiel prend aussi tout son sens. L'autodétermination, l'idole du « c'est mon choix », c'est une liberté autoréférencée. Et cette autodétermination, il me semble, c'est une revendication qui imprègne tous les débats éthiques auxquels nous avons droit ces derniers temps, que ce soit autour du question du droit à l'enfant, du droit à choisir sa mort, ce sont des questions de droit individuel qui sont totalement orientées par cette affaire de liberté autodétermination. Alors il me semble que face à ça, ou avec ça, il y a un autre modèle de la liberté, qui est la liberté comme capacité à faire advenir quelque chose de neuf dans notre monde. Hannah Arendt, la philosophe, a beaucoup développé cette affaire-là, et elle dit que c'est aussi une façon de ne pas laisser le dernier mot à la mort. Je vous cite juste une petite phrase d'Hannah Arendt. Elle écrit ceci: « La faculté de commencer du neuf nous rappelle que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. Nous sommes nés pour innover. » Nous sommes, c'est une reformulation philosophique d'une formule de théologie chrétienne. Nous sommes créés créateurs. Nous sommes nés pour innover. Et sous la plume de Hannah Arendt, le modèle ou la métaphore de cette capacité d'innovation, c'est la naissance. Le fait de la natalité, comme elle dit. La naissance, c'est quoi? C'est l'advenu dans notre monde d'une nouveauté, un nouveau venu, comme elle dit, dont nul ne connaît par avance le devenir. Vous savez, c'est le « que sera cet enfant ?» Cette liberté comme capacité à faire advenir du neuf, c'est du coup une liberté qui ne peut pas prétendre tout maîtriser. Le devenir de ce que nous commençons n'est pas connu. La liberté comme capacité des commencements, c'est donc initier des choses, faire surgir, faire advenir, faire naître. C'est en même temps une capacité à ouvrir et à donner un avenir. Ce que nous dit l'étymologie du verbe « procréer ». Procréer, c'est créer en avant de soi, c'est-à-dire ouvrir un avenir. Et cette liberté des commencements, en quoi est-ce qu'elle se distingue encore de l'autodétermination dont je parlais auparavant? C'est que cette liberté des commencements consiste non seulement à commencer, à initier quelque chose personnellement, mais aussi à accompagner les commencements. Et c'est quelque chose qui court là aussi peut-être tout au long des articles sur la spiritualité au féminin, l'accompagnement des commencements, c'est-à-dire permettre à d'autres de naître et faire naître. Et c'est aussi une liberté qui met en relation. Voilà, là c'est vraiment un tout autre aspect de la liberté que l'autoréférentialité. Une liberté qui fondamentalement met en relation, c'est-à-dire ouvre des possibles, mais avec et pour d'autres. Pas seulement pour soi. Une liberté qui est dans une dynamique du don, c'est peut-être votre formule, je crois, d'engendrer des sujets libres. La parole qui engendre des sujets libres. Alors pour conclure, je voudrais peut-être mettre en évidence juste deux petits aspects. Cette liberté au féminin, ce serait une liberté comme créativité, donc vous voyez que j'insiste beaucoup là-dessus. Et cette créativité, cette liberté comme créativité, est-ce que ça ne serait pas quelque chose comme une puissance de vie, puissance créatrice de la vie, pour reprendre une formule de Nathalie, qui pourrait être une alternative au pouvoir établi, au pouvoir institutionnalisé? Des pouvoirs institutionnalisés susceptibles d'être dominés par les hommes. Donc cette liberté comme créativité, est-ce qu'elle n'a pas justement une valeur particulière en Église, où il serait justement comment je peux dire ça? Où il serait bon que les femmes se tiennent dans ce lieu de l'audace de la créativité. Oser créer, oser faire autrement, oser créer la surprise. Là où nous sommes, sans attendre d'être dans des lieux institutionnalisés de pouvoir, oser créer déjà là où nous sommes. Et puis un dernier point en conclusion, c'est qu'il me semble qu'une des forces de cette liberté, c'est la tonalité de la consolation. Alors la consolation au sens ignatien du terme, lorsqu'Ignace nous invite à méditer, à contempler le Christ ressuscité, il nous invite à contempler le Christ faisant mission de consolation. La consolation, c'est la joie qu'a traversée la mort. Et la consolation, très concrètement, dans nos vies communes, c'est la grâce, la liberté de se réjouir de la joie de l'autre. Ça paraît une jolie formule, mais essayons de le vivre. On verra que ça n'est pas toujours évident. Mais nous réjouir de la joie de l'autre, il me semble que c'est vraiment un rempart à l'envie, au dépit, à la jalousie, un rempart contre l'adversaire. Voilà, je conclus en paraphrasant le pape François, dont, entre parenthèses, il me semble qu'il n'est pas sans vivre quelque chose d'une spiritualité au féminin. Hypothèse à discuter, mais voilà. En Église, ne nous laissons pas voler la joie d'être femme.
Merci, Agatha. La parole maintenant pour la dernière intervention, avant peut-être un petit échange à la tribune et avant un débat élargi à la salle, Anne-Marie Pelletier, qui est agrégée de lettres modernes, mais aussi bibliste et qui enseigne au Collège des Bernardins, qui fut auditrice au synode des évêques de 2001. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que Lucetta avait été active au synode d'octobre 2015. Elle a ramené des souvenirs émus. La bibliographie d'Anne-Marie Pelletier comporte de nombreux titres, en particulier sur la Bible et sur la question féminine. Je relèverai l'ouvrage « Le christianisme et les femmes » paru aux éditions du CERF en 2001 et récemment donc son article dans le numéro d'études de janvier 2017 « Des femmes avec des hommes, avenir de l'Église » qui nous avait inspiré pour le titre de cette soirée. On avait enlevé les hommes, mais enfin il reste quand même les femmes et l'avenir, repris dans leur série, et puis l'article qui a déjà été mentionné dans la revue Christus. Merci de votre participation.
Merci. Eh bien, je vais essayer de me saisir à mon tour de cette question, effectivement, les femmes, avenir de l'Église, point d'interrogation. Et je vais essayer de le faire en repassant par la Bible, sachant que dans leur sagesse, les Écritures bibliques enseignent que pour s'ouvrir à l'avenir, eh bien, il faut savoir repasser par l'origine. Donc, je me permets de vous convier ce soir un instant à réouvrir le livre de la Genèse en son début. Alors, non pas pour entendre un texte qui nous ferait regarder en arrière, qui nous ferait plonger dans un passé fantasmé, mais pour reprendre pied dans l'originel, hors chronologie, cet originel qui éclaire notre condition humaine présente, qui désigne un certain nombre de chicanes dans cette condition, et qui montre aussi les voies pour franchir l'obstacle. Donc, repassons, si vous voulez, par un détail, un verset, un petit verset du chapitre 2 de la Genèse. Après une forme de tâtonnement, c'est la création des animaux, pour essayer de rompre la solitude de l'Adam, la femme est créée. Et dans l'instant où la femme surgit, vous vous le rappelez, l'homme surgit à son tour, tel qu'il n'existait pas encore dans la lettre du texte. Et dans ce même instant, le langage trouve en quelque sorte le texte. Le langage, la parole, on va voir ce qu'il en est au juste. Au verset 23, en effet, l'homme qui est tout frais advenu à la vie ouvre la bouche. Décidément, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. J'avoue avoir été longtemps sensible au fait que les premières mesures du langage humain dans la Bible, ce sont les mots d'un homme qui admire une femme. Une interprétation heureuse du texte, mais qui m'a longtemps masqué aussi cette évidence à laquelle un exégète contemporain, André Wénin, a fini par me ramener, à savoir que cette parole n'est peut-être pas aussi admirable que j'imaginais. L'homme dont les lèvres s'ouvrent sous la pression d'un étonnement admiratif parle bien ici en son nom propre, en « je », mais pour désigner une femme, à la troisième personne, comme dit les linguistes, la non-personne, la place de l'objet. Autrement dit, le langage qui éclot ici n'institue pas de relation. Les mots résonnent dans un espace vide, finalement, d'une vraie présence de l'autre. Donc l'homme qui naît à la parole rate l'entrée dans l'expérience de la différence. D'ailleurs, ce qu'il dit consiste à dire « elle est comme moi ». Donc nous sommes en fait au seuil de la parole et il va falloir tout un chemin pour que l'espace du langage soit investi par la présence de ce « elle », mais métamorphosé en un « tu », et pour qu'advienne entre l'un et l'autre quelque chose comme une conversation. En fait, dans un dialogue avec le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, le même André Wénin fouille plus loin encore la lettre du texte, et il souligne cette autre évidence, que dans cette affaire-là, la femme ne parle pas. Elle ne cherche pas à rompre le cercle de l'objectivation dans lequel l'inscrit la parole de l'homme. Elle se contente d'être dite comme si elle trouvait son contentement dans le fait d'esquiver le risque d'une parole personnelle. À l'horizon de cette analyse, vous voyez, se forme donc possiblement à l'idée que il y aurait comme une complicité des femmes avec ce discours des hommes qui les parle et qui les voue à un certain silence. Une complicité qui viendrait de ce que finalement il peut être arrangeant de se taire, de ne pas chercher à se nommer. Alors je n'en dirai pas plus sur ce dernier point parce que je ne veux vraiment pas accabler les femmes ce soir. Elles font tellement, elles sont tellement d'un agir et d'un être qui restent, nous le savons, bien invisibles à l'institution et aux sociétés en général. Mais si je rappelle cette lecture des mots de la Genèse, c'est qu'elle permet de prendre, je crois, la mesure de la profondeur des problèmes dont nous traitons. Il nous faut parler de la place des femmes dans l'Église, questionner l'institution ecclésiale sur des pratiques qui continuent effectivement à les marginaliser sur fond d'une condescendance, quand ce n'est pas d'un mépris assez bien enquisté. Mais le problème de fond est bien celui de la relation entre les hommes et les femmes. Ainsi donc, la question des femmes dans l'Église est pour moi directement reliée à l'avenir de cette relation. cette relation qui porte originellement le sceau de la bonté, hein, comme le chantent tous les chants d'amour à travers le monde, mais qui est aussi une relation en souffrance, une relation à la peine, comme l'atteste l'expérience des sociétés humaines, y compris là où l'on est entré dans la nouveauté chrétienne. Et donc aussi, cela signifie que l'avenir de l'Église a rapport à l'avenir de cette relation. Est-ce que l'Église va entrer dans sa vérité en consentant à tenir compte du fait qu'elle est constituée à part égale d'hommes et de femmes, ce duel qui fait que l'humanité est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'Église va-t-elle faire de cette relation une pierre de touche de son avenir, en affrontant des difficultés qui cristallisent, alors non pas uniquement, mais tout de même très singulièrement, dans la manière de gérer cette question de la parole entre les hommes et les femmes. L'institution ecclésiale, encore, va-t-elle s'interroger sur la manière de faire circuler cette parole, ou au contraire de la réserver, de la susciter au-delà des lieux autorisés aujourd'hui, de lui permettre de déclarer une expérience propre, celle que Agathe évoquait à l'instant, ou au contraire de la faire taire dans le pressentiment d'un danger, du danger de l'autre. Et ces questions, eh bien, je crois qu'elles nous pressent tout particulièrement au vu de l'histoire des dernières décennies dans l'Église. Car de fait, depuis les années préconciliaires, ce souci des femmes est entré en force, nous le savons, dans les discours du magistère. L'hommage rendu aux femmes, les plaidoyers en faveur de la défense de leur dignité et de leurs droits, tout cela, c'est tout de même un motif récurrent chez les différents papes des années récentes. Et pourtant, le rendez-vous a été manifestement manqué. Le père Joseph Moin le disait avec une franchise bousculante dans un article de 2011 publié par les Études et précisément reproduit dans ce numéro spécial. Et les pratiques ont si peu changé qu'à peine élu, le pape François, évoquant cette question des femmes, invitait à ouvrir un chantier, comme si finalement tout était à faire. Alors comment comprendre ? Après tout ce que l'on a fait pour les femmes, s'étonnent certains. C'est une parole que j'entends ici ou là. Alors rectifions. Après tout ce que l'on a dit des femmes, et c'est là justement qu'il faut aller regarder d'un petit peu plus près. D'innombrables paroles ont été en effet prononcées, et ça, c'est un fait et qui constitue une nouveauté incontestable et plutôt heureuse. Mais voilà que, sans le vouloir probablement, mais sait-on ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas jusqu'au bout, on a beaucoup rejoué, je crois, au long de ces décennies, le scénario de Genèse 2:23, auquel je faisais allusion il y a un instant. Les femmes sont entrées dans le champ de la parole magistérielle, mais plus d'une fois dans cette très redoutable position de la troisième personne. Cela est flagrant quand il s'agit de la relation à leur corps, à l'autre, à la vie, de la procréation, ô combien. Cela est flagrant quand il s'agit de célébrer la féminité de l'Église, son caractère marial, ou de se lancer dans de beaux développements sur la sponsalité, ou encore d'argumenter une complémentarité réconciliatrice dans une ecclésiologie fondée sur deux pôles, le pôle marial et le pôle pétrinien, entendant donner une place de choix. La meilleure part, nous dit-on, aux femmes, mais sur un mode finalement tellement abstrait et spéculatif et, je crois, un peu illusoire. Alors, soyons justes. Les femmes sont aussi entrées dans le discours de l'Église sous la forme d'adresses personnelles vibrantes, chaleureuses. C'est le cas d'un certain nombre de prises de parole du pape Jean-Paul II sur le sujet, aussi de Paul VI, rappelons-nous, en clôture du Concile Vatican II, cette adresse extraordinaire aux femmes. Et pourtant, de nouveau, osons dire que nombre de ces discours, en s'établissant précisément dans le registre du sublime, sont retombés inexorablement dans le schéma des femmes qui sont parlées par les hommes. Alors, parler autrement, mais toujours sous l'horizon d'une identité largement fantasmée, et finalement, avec le même effet, car une femme trop célébrée, placée dans une excellence, dans une singularité d'exception, c'est une femme mise à distance de nouveau. Écartée en particulier de l'espace où se jouent les choses sérieuses, ces choses sérieuses qui engagent la décision, l'effectivité du pouvoir, etc. Ainsi, ces nouveaux discours de célébration du féminin se sont-ils incurvés sur eux-mêmes et ont reconduit les femmes au monde des représentations masculines qui soutiennent d'une façon ou d'une autre les structures d'autorité et de gouvernement. Alors, il ne devrait pas y avoir trop d'étonnement à cela, puisque, en fait, ce sont des discours qui n'incluent pas l'écoute de l'autre. Cette écoute qui elle-même libère l'espace de sa parole. Ce sont des discours qui ne prennent pas réellement le risque d'une rencontre avec l'autre, avec, voilà, toute cette richesse faite de beaucoup de surprises, de créativité, de nouveautés qu'on évoquait tout à l'heure. Car voilà bien l'enjeu, que les femmes dans l'Église aient part à la parole. Et j'ai envie de dire, en anticipant ce que je vais évoquer dans un instant, la parole avec un petit P et la parole aussi avec un grand P. Alors, soyons précis dans l'expression. Que les femmes aient part à la parole, ça ne signifie pas simplement qu'elles prennent la parole, comme on a pris la Bastille, selon l'expression célèbre, ou bien qu'on leur donne la parole comme une concession plus ou moins condescendante, mais qu'elles entrent avec les hommes dans l'interlocution. C'est-à-dire qu'advienne une parole de l'Église où le « je tue » implique effectivement l'écoute mutuelle et la coopération entre les sexes. En un mot, il s'agit de surmonter l'impasse de Genèse 2.23 et cette forclusion du langage magistériel, du langage institutionnel sur l'exclusive parole masculine. Car ne l'oublions pas, et cela, je dirais, un peu contre André Wénin que j'évoquais tout à l'heure, la parole des femmes existe dans l'Église aujourd'hui, comme elle a existé hier. Mais elle existe frappée de cette impuissance qui lui vient de son refoulement à la marge, de cette appartenance inamovible à la troisième personne, de son enfermement dans une singularité qui s'exprime par exemple à travers son étiquetage de mystique. Ah, mystique. Quelle belle manière de mettre à distance ce que l'on ne veut pas trop entendre. Alors, même si nous n'en sommes plus à des pratiques anciennes qui firent taire cette parole mystique des femmes en anéantissant les corps. Et à ce propos, je voudrais signaler tout l'intérêt du livre du père François Marxer et tout l'intérêt aussi du titre de l'article qu'il a donné aux études. Ces femmes qu'on dit mystiques, on dit mystiques. Et ces femmes dont les voix jalonnent le XXe siècle, justement, comme il le montre avec tellement de puissance dans ce livre qui nous a été rappelé tout à l'heure, qui leur donne la parole pour dire la foi au féminin, pour dire la foi au péril de la nuit, je dirais pour dire la foi telle qu'en elle-même, et non pas bricolée à partir de sécurité rêvée ou bien d'assurance plus ou moins infantile. Oui, cette parole féminine continue à former ces mots aujourd'hui avec une énergie tonique, comme l'atteste l'italienne Luisa Muraro, la française Marion Muller-Collard, l'espagnole Dolores Alexandre et bien d'autres. Mais justement, il ne s'agit pas seulement que les femmes fassent entendre leur vérité. Tout le problème est bien que leur parole puisse quitter l'enclos auquel est assignée, qu'elle puisse entrer dans le champ de l'écoute et de l'échange. Et donc, il nous faut porter notre attention, voyez-vous, non seulement sur le contenu du discours des femmes, mais sur son énonciation. Là où le langage vaut non seulement pour ce qu'il dit, mais aussi pour ce qu'il construit de relations à hauteur de ses interlocuteurs. Donc, il s'agit, accueillant la parole des femmes comme celle d'interlocutrices, de faire bouger en profondeur les identités. Une femme qui dit « je » en nom propre constitue l'homme en « tu » et elle redessine ainsi l'identité de chacun. Véronique Margron, qui donne un texte d'ouverture au numéro de Christus, est musée d'un mot qui fournit un bon modèle de cette énonciation transformatrice des identités. Ce mot, c'est celui de conversation. Alors, un mot qui a de fortes résonances ignatiennes, mais aussi un mot qui désigne une modalité, je dirais, aussi précieuse que modeste de la parole et de la relation qu'elle instaure. Alors, pour dire les choses très brièvement, et pour revenir au texte biblique, je vous renvoie à ce petit médaillon à l'intérieur du récit biblique qui évoque la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. Se rappelle la scène, une femme, de surcroît une étrangère, vient mettre à l'épreuve, éprouver la sagesse de Salomon. La conversation se noue entre les deux partenaires. Alors nous n'en savons que les effets finaux, la reconnaissance mutuelle de la sagesse de l'autre, alors que vient confirmer la prospérité et la magnificence des cadeaux qui s'échangent entre Salomon et la reine. Nous avons là, je crois, le schéma d'une vraie rencontre de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre, et au plus haut niveau, puisque la matière de la conversation n'est rien de moins que la sagesse. C'est sur cette crête que se produit la reconnaissance. Et c'est aussi sur une crête, qui n'est pas sans rapport avec la sagesse d'ailleurs, qu'il me semble que hommes et femmes sont attendus aujourd'hui dans l'Église. Cette crête, c'est celle de la diaconie de la parole. Alors nous savons trop que de cette diaconie, les femmes aujourd'hui sont encore soigneusement écartées. On célèbre Marie-Madeleine, on l'évoquait tout à l'heure, on la nomme apôtre des apôtres, mais la pratique ne suit guère. Ou, pour être plus exact, les femmes sont bien aux avant-postes de la diaconie de la parole, concrètement, pratiquement, sur le terrain, mais toujours à distance d'une reconnaissance institutionnelle. L'injonction de la première lettre de Timothée, vous savez que la femme se taise, continue à courir dans les esprits. Et d'autant plus qu'elle est associée au privilège sacerdotal qui s'attache à cette forme de diaconie. Alors, oui, privilège sacerdotal, cela nous ramène à ce que, pour ma part, j'ai tendance à considérer comme le point névralgique dans toute cette affaire, le baptême, le sacerdoce baptismal, qui revient aux femmes. En exclusivité d'une certaine manière, puisque le sacerdoce ministériel n'est pas accessible, mais d'une manière du coup qui le met extraordinairement en valeur. J'ai tendance à dire, alors avec quelques précautions, ça dépend où, mais que je ne demande rien, ou en tout cas que je ne demande pas le sacerdoce ministériel parce que j'ai tout, puisque j'ai le sacerdoce baptismal. Alors, avec l'idée que ce serait bien que les hommes puissent recevoir justement des femmes, de la femme que je suis, le signe que ce sacerdoce baptismal est le nec plus ultra de la condition chrétienne. En tout cas, ce sacerdoce baptismal, si j'en crois saint Paul, qualifie pour la diaconie de la parole. Donc il qualifie les femmes pour assurer cette diaconie de la parole. D'autant plus que dans une religion de la parole incarnée, les femmes ont quelques titres à faire valoir pour penser être concernées par cette diaconie. En particulier, une familiarité avec l'incarnation qui leur donne une aisance pour se mouvoir eh bien, dans l'épaisseur charnelle des Écritures où la révélation se dit. Elles auraient ce titre à faire valoir, pas simplement pour elles-mêmes, mais pour le profit de tous, dans une Église qui parvienne à surmonter enfin eh bien, le dialogue avorté de Genèse 2:23, et qui entre dans l'accomplissement du langage et de la relation, alors que préfigure le récit de Salomon et de la reine de Saba, mais qu'exprime ô combien eh bien le « je » et le « tu » dont les voix se tressent tout au long du Cantique des Cantiques. Merci.
Merci, Marie Pelletier, de cette intervention qui nous fait nous replonger dans la source, dans l'originel. Alors, je ne sais pas si les deux autres intervenantes ou Romy veulent ajouter tel ou tel mot suite de ces interventions qui, je pense, vous l'avez bien senti, convergent sur bien des points, en particulier sur cet accent mis sur la parole et sa singularité, l'incarnation de cette parole à l'encontre de toutes les constructions trop abstraites ou trop conceptuelles dans lesquelles nous nous complaisons, le « nous » étant évidemment ici limité à la moitié de l'humanité. Lucetta, Agatha.
Moi j'avais été frappé, bon, c'est juste une réaction, mais j'avais été frappé dans ce que disait Lucetta sur les femmes qui ont vécu l'œcuménisme dans leur vie, dans leur chair, etc., et qui ont commencé quelque chose de ce côté-là. Et je m'étais, ça a fait tilt quand Agatha a parlé de l'audace des commencements et sans se préoccuper finalement trop d'institutions ou de choses comme ça d'abord, mais simplement d'être là dans le commencement et de conduire quelque chose, de commencer quelque chose. Quoi. Voilà, le rapport des deux m'a frappé.
pas si on peut.
Nous pouvons élargir le débat, vous laissez la parole. Alors, je pense qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Je ne sais pas où sont les micros. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Nous allons prendre plusieurs questions à la fois, il nous reste une demi-heure environ. Nous prendrons plusieurs questions à la fois. Merci de faire des questions relativement courtes, hein, pas nécessaire de refaire des conférences. Donc voilà, et éventuellement de dire à qui vous l'adressez. Allez-y. Attendez un instant, le micro soit clair. Il y a toujours une petite hésitation technique dans la manipulation de ces appareils, pourtant bien perfectionnés.
Voilà, voilà. Bonjour, merci. Juste, je rebondis sur ce que François Heuvé a dit tout à l'heure en forme de boutade. Il a dit qu'il fallait rééquilibrer les tables rondes. Je trouve ça intéressant quand même pour ouvrir la soirée, pour penser l'Église.
Merci. Allez-y. Il y a un petit bouton en dessous.
Ah, il y a un bouton en dessous qu'il faut mettre vert. Et voilà.
Allô, oui. Je voudrais dire quelque chose pour vous. Vous ne voulez pas souffrir, alors vous ne voulez pas aimer. C'est un grand chrétien qui dit cela. L'amour et la souffrance est noué ensemble. Maintenant, je me permets de vous ajouter seulement ceci. Notre Christ, vous savez, justement, je peux vous appeler Sœur Agatha, si vous permettez. Je trouve très bien, comme vous avez dit, si vous rentrez dans une chambre des mourants, vous ne dites rien. Votre présence veut communiquer quelque chose, une présence aimante. Et ça, c'est ce que je veux souligner. Le Christ, nous sommes créés par amour. Toute la création, comme Mme Pelletier a bien souligné, peut-être cachée, c'est l'amour qui nous a... Si nous sommes à la ressemblance de Dieu, nous sommes créés pour aimer et pour aimer. Vous savez très bien, une femme, un homme ou un enfant qui renaît quand elle est aimée. Ça, c'est clair. Elle renaît parce que l'amour, c'est seulement ça qui nous fait proche au Créateur. Évidemment, je ne vais pas prendre parole trop longtemps. La sagesse, on peut demander à Dieu. La prière, ça nous fait la communication avec Dieu. Sans communication avec Dieu, il n'y a pas de chrétien. Pardonnez-moi, je ne peux pas prendre encore trop la parole.
Merci. Continuons.
Ce serait bien si vous aviez des questions.
Oui.
Merci pour vos exposés, très intéressants. Je travaille sur l'égalité homme-femme dans la vie civile et il se trouve que c'est une des grandes causes en France, une grande cause nationale même mise en valeur depuis que Macron a été élu. Il y a une loi qui est du 8 août 2014 sur l'égalité réelle. Comment se positionne l'Église aujourd'hui? Est-ce que l'Église applique la loi? Est-ce que la loi va précéder des changements dans l'Église?
Merci. Peut-être encore une
question. Je crois que là, c'est une vraie question.
C'est une vraie question. Oui, merci Nathalie. alors, est-ce qu'il y aura encore une question? Voilà, oui, au milieu, tiens, on va prendre par ici, Bénédicte.
Pour compléter la question de la personne qui vient de s'exprimer, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que l'égalité homme-femme est la conversation? Est-ce que c'est la même chose justement pour comparer la réflexion, disons, dans la vie civile, comme disait la personne, et la réflexion qu'il peut y avoir dans l'Église? Il me semble, moi, justement, que non. J'aimerais entendre les interlocuteurs, enfin les intervenants là-dessus.
Merci. Alors, égalité homme-femme, conversation, je ne sais pas qui veut se lancer. Y a-t-il égalité homme-femme dans l'Église? Égalité est-elle équivalente à conversation? Alors, qui se lance? Le Tchéta sur l'égalité.
Oui, mais je pense que dans la tradition chrétienne, l'égalité, c'est une donnée qui n'est pas en discussion, qui s'assure. Car dans les évangiles, Jésus donne la même attention spirituelle aux femmes et aux hommes. On n'a jamais dit, dans la tradition chrétienne, dans l'histoire de la chrétienté, on n'a jamais dit qu'il y avait une différence spirituelle entre les femmes et les hommes. On a eu tout de suite la possibilité pour les femmes de parcourir la vie religieuse, qui c'était une nouveauté tout à fait absolue dans la vie religieuse de l'Antiquité. Et dans la même façon, il y a eu la possibilité pour les femmes de faire carrière de sainteté dans l'Église. Il y a les saintes du commencement de christianité, du christianisme. Car il n'y a pas eu question d'égalité sur la vie spirituelle. La question s'ouvre sur l'institution, sur la possibilité d'intervenir dans la gestion de l'institution, dans les décisions qu'on prend dans l'institution. Ce sont deux choses différentes. Et je pense qu'il faut que l'égalité qui est, comment on dit, qui constitue les bases de l'Église, doit se transférer même dans une conversation à l'intérieur de l'institution.
Merci. Alors, peut-être le philosophe sur égalité, conversation.
Oui, je me disais, juste en vous écoutant, effectivement, dans les interventions que nous venons de faire, la problématique ne s'est pas formulée en termes de justice. Ce à quoi renvoie le mot égalité dans le contexte de la législation, en tout cas. Et je me suis dit, mais c'est vrai, non pas que la question de la justice soit absente, sans doute, de nos recherches, mais en tout cas, ce n'est pas la porte d'entrée, il me semble, de nos réflexions. En tout cas, je ne voyais pas intenter un procès à je ne sais pas qui, d'ailleurs, au nom de la loi française, je ne sais pas, un cardinal... Je ne sais pas, sur la question des salaires, peut-être ça pourrait... Je n'en sais rien. En revanche, je me disais, que recouvre le mot de conversation ? Et il me semble qu'en un sens, il touche la question de l'égalité, je ne sais pas si c'est directement en termes de justice, mais il me semble que ce qui nous préoccupe à cette table, mais vous préciserez, sous le mot conversation... c'est l'importance de participer aux décisions en Église. Et il me semble que derrière la place donnée à la parole, à l'interlocution, à la conversation, un des aspects dont il s'agit, c'est bien ça, c'est-à-dire que sans doute la question aujourd'hui, c'est non seulement la présence, mais la participation des femmes dans les lieux de délibération, de discernement et de décision en Église. Et là où il me semble qu'il y a un rôle à amplifier de la conversation comme interlocution, par exemple, je me disais, il me semble qu'aujourd'hui en France, il y a de plus en plus souvent des femmes dans les conseils épiscopaux. Présence féminine dans un lieu de délibération, parfois de décision. Mais effectivement, la présence des femmes ne suffit pas, elle risque parfois de servir d'alibi. Encore faut-il des clercs qui écoutent la parole des femmes. Et je me disais, est-ce que concrètement, une des urgences aujourd'hui ne serait pas de former les clercs à l'écoute de la voix des femmes ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans les séminaires en Italie, par exemple ? Donc, vous intervenez dans les séminaires en Italie. Alors, on vous écoute sûrement avec bienveillance, etc. Mais vous voyez bien qu'il ne s'agit pas simplement de mettre une femme à la chaire en face d'un parterre d'hommes se préparant à être prêts. C'est comment former l'écoute dès le séminaire par l'enseignement, enfin donner la parole aux femmes dans l'enseignement, plus largement dans la formation et même dans l'accompagnement. Je pense que Alors, c'est pas au centre Sèvres, évidemment, c'est pas un problème, mais je pense qu'il y a des lieux où être, pour, être accompagné spirituellement par une femme n'entre même pas dans l'imaginaire des possibles pour certains jeunes hommes qui se préparent à être prêtres. Or, c'est là, peut-être, qu'il y a quelque chose à initier, à former l'oreille. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, moi je dirais vaste programme, former les clercs à la voix des femmes, à l'autorité des femmes. En même temps, c'est vrai que nous sommes ici dans un lieu où la voix des femmes se fait entendre et leur autorité est reconnue. Enfin, ça fait partie de ces lieux bien heureux, mais qui prouve que c'est possible. Cela dit, nous sommes aujourd'hui très, très explicitement avec cette question sur un lieu de conflit à l'intérieur de l'Église, et un lieu de travail où les choses se travaillent. Alors avec bon nombre d'expériences malheureuses, frustrantes, et puis d'autres qui malgré tout parviennent à avancer. Je crois que il faut que nous soyons malgré tout dans la confiance, c'est-à-dire que effectivement il y a des mouvements d'avancée puis des mouvements de recul. On sent bien que c'est un lieu difficile, hein, parce que c'est un enjeu fondamental. Qu'est-ce que l'Église ? Qui est l'Église ? Comment ramener au cœur de tout la vocation baptismale et faire du sacerdoce ministériel le service de cette vocation. Bon. Donc c'est tout un chantier. En même temps, je pense à, vous savez, à ce mot de Galates du chapitre 3 du livre des Galates, Galates 3:28, il n'y a plus l'homme et la femme. Ça, c'est la situation que couvre, qu'inaugure, que rend possible précisément l'entrée dans le temps nouveau de l'Église. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs l'égalisation ou la négation, hein, de la différence, mais au contraire, cette différence accessible, hein, comme une réalité positive. Il y a enfin l'homme et la femme. Alors c'est le lieu aujourd'hui de grands enjeux, de tout un travail difficile, avec des avancées, avec des reculs. Mais
j'aime bien l'usage du mot travail. Parce que le travail, c'est à la fois, ça dit le labeur, l'effort, la peine de l'effort, puis à la fois le travail, l'accouchement.
Oui.
Travail d'enfantement.
Oui, oui, oui. Et Dieu sait si c'est un lieu de difficultés aujourd'hui dans l'Église. Bon, mais avec quelque chose qui malgré tout, je crois, va fondamentalement de l'avant. Moi, je suis tout de même très frappée de ce que, en l'espace de quelques dizaines d'années, des choses sont devenues possibles, des paroles de femmes sont devenues possibles dans des institutions de l'Église, dans des lieux monastiques que je fréquente pas mal et où je fais l'expérience que on fait confiance aux femmes, on les écoute. Il y a 20 ans, 30 ans, je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui, hein, et que la même confiance aurait pu se manifester et faire que on fait appel à moi. Donc j'ai quand même tendance à penser que quelque chose est en mouvement, mais qui rencontre de fortes résistances. Mais bon,
On va tout de même de l'avant. Et non pas simplement pour satisfaire des revendications féminines ou féministes, mais pour faire exister l'Église dans la plénitude de son identité. C'est vraiment des femmes avec des hommes ou des hommes avec des femmes. Ça, je crois qu'il faut tenir fortement ce « avec ».
Merci. Reprenons une autre salle de questions. Il y avait une main qui s'était levée au premier rang. Attendez le micro.
Madame Lucetta.
Attendez.
Oui. Là.
Oui, c'est bon. Allez-y.
Ça résonne. Madame Lucetta disait que... Enfin, Scarfini.
Parlez bien dans le micro.
Oui, disait que Jean-Paul II n'était pas allé jusqu'au bout. C'eût été quoi ? Aller jusqu'au bout et comment en pratique dans la mission de l'Église qui est d'évangéliser autrement, quelle est la spécificité de la femme pour évangéliser autrement?
Merci. Autre question. Alors justement, il y a une main masculine qui se lève au milieu.
Oui, Anne-Marie Pelletier vient de dire qu'on va de l'avant. Je crois que tout le monde sera d'accord quand même pour dire qu'on n'y va pas trop vite. Hein. Est-ce que vous avez une stratégie à proposer pour que les choses évoluent ou est-ce qu'il faut simplement attendre que nos évêques soient illuminés par la grâce?
Merci, la question est claire. Et peut-être une troisième question. Alors, une dame...
Oui, pour compléter cette intervention, un exemple qui date d'aujourd'hui. Je regarde la newsletter du diocèse de Paris avec un article, enfin une rubrique sur les servants et servantes d'hôtel et un prêtre qui explique tout le bien que peut apporter cette fonction avec que des garçons. Mais que des garçons. Alors que le titre était bon. Alors, c'est un exemple que moi, je trouve violent, parce que c'est d'une symbolique considérable du début à la fin. Et alors, la question que je me pose, qui revient à celle que posait le précédent, c'est comment trouver des lieux de conversation sur des sujets de ce genre, des lieux qui ne soient pas forcément conflictuels. Et sur des exemples comme ceux-là, il y en a une quantité considérable et on les ressent comme une régression très forte par rapport à cette ouverture aux femmes. Ça commence dès l'enfance et ça a vraiment un point symbolique qui est très important. Et ma question, c'est quel mode opératoire, quelle stratégie, quel lieu créer pour pouvoir poser ces questions d'une façon sereine, disons.
Merci. Peut-être encore une dernière, parce que vous avez le micro.
Moi, devant. J'étais très intéressée par ce regard biblique d'Anne-Marie Pelletier sur la Genèse, et ça me fait me poser une autre question. Est-ce que la femme n'a pas été toujours enfermée entre deux archétypes féminins, celui d'Ève, la tentatrice, la séductrice, qui finalement est cause du péché originel, entre guillemets, et puis la figure de Marie, avec toute la construction mariale qui en a découlé, Marie qui est vierge, qui est mère, mais femme, comment ? Elle est surtout vierge et mère, donc elle est proposée comme idéal féminin avec une amplification au cours des siècles. Est-ce que la position de la femme dans l'Église n'est pas justement dépendante de ces deux archétypes féminins dans lesquels on l'a enfermée, plus ou moins ? Une question.
Merci pour toutes ces questions. On va en rester là. Il y a quatre questions substantielles. Bon, la première peut-être adressée plus directement à Lucetta sur la contribution de Jean-Paul II qui aurait pu être prolongée. Deux questions qui se rapprochent un peu sur comment aller plus loin, quelle méthode, quelle stratégie dans le contexte d'une conversation, d'une assez argumentée. Pas forcément descendre dans la rue. Et puis, la dernière question sur l'archétype féminin entre Ève et Marie. Lucetta, vous répondez à la première?
Oui, j'espère avoir bien compris la question. Hein.
C'est, vous avez dit dans votre intervention que Jean-Paul II avait initié quelque chose, mais n'avait pas été jusqu'au bout de sa démarche. Il aurait pu aller plus loin. Alors, justement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ou pu faire?
Mais il aurait dû écouter les femmes, faire entrer les femmes dans les moments où on va décider le futur de l'Église. Et on va décider ce qu'on fait dans l'Église. Vous pensez que dans tous les réunions où on parle de l'Église, il n'y a aucune femme, on n'écoute aucune femme. J'étais vraiment étonnée que dans le synode, il n'écoutait aucune femme. Mais on nommait même le mot femme dans le synode sur la famille, j'écoutais très bien. On disait le mot femme a été prononcé seulement dans la locution les hommes et les femmes, mais jamais a été conceptualisé comme un problème la femme ou une situation les femmes. Et vous savez que la crise de la famille c'est très lié aux des problèmes de l'émancipation des femmes, mais les femmes n'existent pas, et c'est ça que c'est le problème. Les femmes n'existent pas ni comme objet de conversation ni comme sujet avec lequel on peut parler, on peut discuter, on peut comprendre quelque chose. Et je pense qu'alors dire qu'il y a le génie des femmes, mais après faire tout comme si les femmes n'existaient pas, c'était une démonstration qu'on peut, en italien on dit, fare a meno del genio delle donne. On peut, come dire, oui, faire toutes les choses sans les femmes, c'était comme dire que le génie des femmes c'est très important, mais il ne sait rien de toute autre façon.
Merci. Alors, sur la question des stratégies ou des méthodes, est-ce que comment aller de l'avant, Gata?
Alors, hélas, ça n'est pas une stratégie globale, ce que je vais évoquer, mais quelque chose plutôt du côté des rencontres interpersonnelles. C'est un peu une petite expérience, un constat. Ce qui aide, c'est ce que dans la tradition ignatienne on va appeler la conversation spirituelle interindividuelle, c'est-à-dire à partir du moment où dans une conversation avec un... J'ai en tête comme ça une expérience avec un clair, très clair. Voilà. Lorsque la conversation vient sur le terrain de l'expérience spirituelle, là, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose justement de l'ordre de cette oreille qui va s'ouvrir, cette oreille masculine qui va s'ouvrir à une parole féminine. Là, on peut parler peut-être même comme quelque chose comme le roi Salomon et la reine de Saba, c'est-à-dire qu'on parle à égalité, je ne sais pas, mais dans une forme de réciprocité. Là, on parle de l'expérience de Dieu, mais au fond, par exemple, vous savez, dans les récits de vocation, c'est « mais comment t'es devenu prêtre ?» Bon, et encore ça peut très vite se mettre dans un récit un peu tout fait, mais si... Si quelqu'un accepte d'entrer dans le quelque chose du « mais qui est le Christ pour toi aujourd'hui ? Quel est le visage du Christ qui te fait être ce que tu es ?» Là, si une conversation s'engage en vérité un peu sur ces modalités-là, là, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Et l'autre terrain de conversation où il peut se passer quelque chose, c'est pas seulement le côté de l'expérience spirituelle personnelle, de comment Dieu nous a saisis individuellement dans le fond de notre identité profonde, mais c'est aussi le récit ou le partage des, par exemple, des expériences pastorales difficiles. Autrement dit, à partir du moment où on peut parler de lieux qui ne sont pas seulement des lieux de choses faites, de réussites, de maîtrise, d'organisation. Mais à partir du moment où on peut toucher quelque chose de l'ordre de la fragilité, voire de la souffrance, là, il peut se passer quelque chose. Mais voyez bien, ce n'est pas de l'ordre de la stratégie globale. On ne peut pas mettre des affiches dans les paroisses en disant « parle de sa souffrance avec ton curé ». Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Mais il y a des terrains où il peut se passer réellement quelque chose. Enfin, c'est microscopique, ça je suis tout à fait d'accord, c'est la limite. Mais il n'y a pas rien.
Oui, je confirme, effectivement, il n'y a pas rien. Bon, je ne voudrais pas donner l'impression que j'ai une vision un peu béate de la situation. Je vis dans le diocèse de Paris et je sais que, effectivement, et puis ailleurs, tout n'est pas si simple. Il y a des résistances à la présence des femmes, à la reconnaissance des femmes, et c'est vrai que ces résistances ont tendance à s'affirmer. Alors tout ça passant par tous ces petits détails de la vie des paroisses que vous évoquiez tout à l'heure, les histoires des servantes d'hôtel, etc. Donc je dirais que je vois tout ça très fort et je l'expérimente. Et je reconnais, même dans mon expérience, un effet de régression d'une certaine manière, en particulier dans mes rapports avec, disons, avec le clergé. Bon. Mais je tiens quand même que, d'abord, nous sommes réunis ce soir par cette question, ici même, au Centre Sèvres. Et nous mettons en échange nos différentes expériences, qui sont des expériences de femmes dans l'Église, donc ça existe, de femmes qui, sans arrogance, s'efforcent d'avoir une parole et d'être entendues, et puis d'entrer dans cette conversation que nous disions tout à l'heure. Et même si parfois je suis, je ne cache pas, très, très découragée, je crois malgré tout qu'il y a quelque chose qui avance. Alors peut-être pas forcément visible à l'œil nu dans nos paroisses, bon, mais si j'évoque mon expérience personnelle, non pas pour me raconter, mais pour dire quelque chose tout de même de ce qui peut se faire aujourd'hui, qu'une femme puisse prêcher, enfin j'évite toujours un peu le mot parce qu'il m'impressionne, mais disons donner la retraite, la grande retraite dans un monastère d'hommes, alors de femmes, oui, mais aussi d'hommes, je ne suis pas certaine que ça se serait fait il y a quelques dizaines d'années. Or aujourd'hui, ce sont des choses qui se font et qui se font de façon heureuse. Et je travaille pas mal dans le monde monastique. Je peux vous dire que je vois, à l'échelle de la décennie récente, des évolutions tout de même qui font que, alors qu'auparavant, non seulement les ordres étaient soigneusement séparés les uns des autres, mais a fortiori, ce qui était masculin était mis à distance de ce qui était féminin. Aujourd'hui, les choses évoluent. Alors peut-être par l'effet de la pénurie, on ne peut plus former les frères dans un studium monastique à distance des autres, donc on est obligé de mutualiser les forces. Mais du coup, des rencontres se font, des liens se créent entre hommes et femmes, entre chrétiens et chrétiennes. Et je me dis que c'est pas rien. Le fait que on puisse, quand on est moine et monial, se former ensemble dans des enseignements communs, en dehors de son monastère. Ça dit quelque chose, il commence à se faire. Le fait que, malgré tout, même si ce n'est pas simple, des femmes puissent prendre la parole dans des séminaires. Alors bon, je sais très bien qu'on les engage, on les embauche essentiellement dans des rôles de professeurs de latin, de grec. Bon, pas trop périlleux, mais enfin, de temps en temps tout de même, on peut leur demander d'enseigner la théologie, d'enseigner l'exégèse. Donc, je comprends très bien hein, votre réserve et votre réserve un peu agacée de tout à l'heure, hein, on va dire, hein, oui. Enfin, la situation est critique, mais je crois qu'il faut, il faut tenir bon et accepter d'avancer là où l'on peut. Hein, mais des choses se font aujourd'hui, voilà. Des choses se font aujourd'hui qui, il y a 20 ans, étaient impensables. Et donc, je crois que malgré tout, alors à condition d'y mettre une bonne dose de patience et de confiance, on peut estimer que ça avance. Alors, même si on observe à l'œil nu, dans la vie de nos paroisses, toutes sortes de choses qui relèvent bien de la régression. Mais bon, on sent bien que là, on est sur un lieu... Hein, difficile, mais essentiel de la vie de l'Église. Et là, je ne sais plus si j'ai cité tout à l'heure l'article du Père Moins de 2011, oui, je crois bien. Il faut l'entendre. Hein. L'avenir de l'Église passe par le tissage, le retissage des relations entre les hommes et les femmes, passe par une coopération entre les hommes et les femmes. Et ça, il faudra coûte que coûte. Alors peut-être que d'ailleurs la pénurie de prêtres, en l'occurrence, est une situation favorable pour que finalement... Voilà. Bon, j'arrête parce que c'est horrible.
Rémi, tu ajoutais un petit mot ?
Oui, j'ajouterais volontiers un petit mot, c'est-à-dire je crois qu'il y a un gros travail de mémoire à faire et à travailler. Et dans l'histoire, il y a eu des périodes où les femmes étaient tout à fait autrement considérées et avait un rôle dans l'Église. Au XVIIe siècle, il y a des mères de famille qui accompagnent et qui ont un discernement spirituel reconnu et que l'on vient chercher, y compris des personnalités importantes, pour leur conseil, pour leur jugement. Donc ça, je crois que c'est important de se le rappeler. De même, dans une période plus récente, j'ai été longtemps à Lille et je me souviens que la responsable du premier cycle du séminaire d'Arras, à l'époque, était une femme théologienne, spirituelle, et ça n'est plus le cas. Mais justement parce que ça n'est plus le cas, je trouve que c'est important de s'en souvenir et de dire que ça a existé il n'y a pas si longtemps, même si l'une des raisons qui sont souvent peut-être un peu rapidement proclamé, c'est de dire oui, mais vous savez, aujourd'hui, les jeunes hommes, etc., il faut pas qu'il y ait trop de femmes parce qu'ils ont besoin d'avoir des modèles masculins devant eux, etc. Enfin, on entend des choses comme ça aujourd'hui, hein, très fortement. Et enfin, et je terminerai par là, il y a aussi une affaire d'histoire qui touche chaque personne. Et je me réfère pour ça à un vieil article d'un maître spirituel récent jésuite qui a disparu et qui s'appelait Odilon de Varines. Dans les pratiques ignatiennes, qui est un numéro spécial, un hors-série de Christus, déjà un peu ancien, il y a un petit article sur la manière de lire la Bible et de relire sa vie qui est signé d'Odilon de Varines et dans lequel il y a une petite perle. Parce que vers la fin de l'article... Il dit ceci, il dit « Marie, elle part de ce qu'elle voit, de ce qui se passe du côté de son fils, et elle essaie de se souvenir, elle met ça en rapport avec la promesse qu'elle a reçue de l'Esprit pour essayer de comprendre et de suivre son fils. » Les disciples, Pierre, eux, c'est un autre chemin qu'ils ont à faire. Parce que eux, ils savent qui doit être le Messie et comment il doit être, etc. Et ils ont besoin de déconstruire leur savoir pour arriver à comprendre ce que Jésus leur dit. Donc je crois qu'il y a à la fois, si vous voulez, il y a à la fois une question historique et il y a une question spirituelle. Et je crois qu'on s'en sortira pas sans le lien des deux.
Eh bien, je crois que c'est une belle conclusion pour notre soirée. Il est 21h30, nous allons en rester là. Remercier les intervenants. Je vous rappelle donc les deux revues qui sont à l'arrière-plan de cette soirée. Le numéro de Christus, une spiritualité au féminin, et le hors-série de la revue étude, quelle place pour les femmes, qui sont en vente, je pense, à la sortie. Merci d'être venu et merci aux intervenants.